right out of your seat. And then you throw your hands high in the air. You rock it to the beat and shake your derriere. You rock it to the beat without a care. Cause the short shot MC for the event. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a slim face and a pair of brown eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. To the own and the own and own, own and own. The beat don't stop until the break it don't. I said the own and the own and own, own and own. Like a hot butter pop, the pop, the pop. If you hear me pop, the pop, pop, you don't dare stop. Come alive, y'all, and give me what you got.
Oui, alors vous êtes toujours sur le 89.5 de Radio Audio et c'est l'émission Papillon. Donc voilà, donc là maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler des longues peines et notamment on va revenir à travers l'histoire de Philippe Lalouel qui est passé récemment en cour d'assises à Toulouse. C'est une histoire assez révélatrice de l'extrême sévérité de la justice française aujourd'hui. Et voilà, ceux qui croyaient que la peine de mort était abolie, c'est toujours pas le cas. Visiblement. Donc pour en parler, on a Laurent Jacquet au téléphone. Alors est-ce que tu m'entends ?
Ouais, je t'entends super bien, ouais, bon. Ça va. Salut,
c'est parfait.
Salut tout le monde.
Salut Laurent.
Salut. Alors du coup, oui, on va revenir. Bon Laurent, on a pas mal déjà parlé de toi à l'antenne. Donc toi, t'as fait 25 ans de prison. Donc t'es un ancien détenu. Et en plus, du coup, t'as témoigné au procès de Philippe parce que t'as été amené à le rencontrer. En prison quoi. Alors justement.
Non. Je me suis évadé avec lui.
D'accord. Ah ben tu t'es évadé avec lui, donc tu l'as connu. En prison.
C'était un associé à moi.
Voilà, tu l'appelles ton associé, ouais. Bon.
Du coup. On était associés sur une évasion tous les deux.
D'accord. C'était en quelle année ça ?
C'était en 94. On a fait une prise d'otage tous les deux et on a réussi à s'évader le 9 octobre 94. 9 octobre qui est la date de l'abolition de la peine de mort.
Oui, c'est vrai. Il y avait
Juste vite fait, Laurent, salut. Est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi on s'évade, enfin nous expliquer pourquoi on s'évade en fait de prison? Tout bêtement.
Parce que c'est des sentences de mort qui nous mettent. Nous, ils nous ont collé 30 ans après, tu comprends? Donc. Voilà, c'est ça où tu crèves au placard. Donc, le choix, il est simple. Hein. Ou tu acceptes et puis tu te mets à genoux et puis tu crèves comme un clébard, ou tu prends la décision de t'évader et puis la liberté, tu sais. Je vais te dire, c'est bien simple. Aujourd'hui, on tue des mecs dans les murs de ronde. Et puis, à l'époque où il y avait le mur de Berlin, quand on tirait sur des gens qui voulaient la liberté, le monde entier dénonçait ça, tu vois. Mais aujourd'hui... tout autour de toutes les prisons françaises, il y a des petits murs de Berlin où des gens se font tuer, où des gens se font attraper et prennent des années parce qu'ils veulent s'évader.
Okay.
Donc, c'est légitime. On peut pas accepter d'être traité comme on l'a été et accepter des sentences de mort sans réagir. Ouais, donc, on s'est évadé pour ça à l'époque, en 94, moi et Philippe, et on a pris 30 ans derrière.
D'accord. Donc toi, depuis, toi, t'es sorti. Et lui, il y est encore, justement. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un peu, toi, vite fait, sur son parcours, justement, notamment, parcours carcéral, combien ? Parce qu'il a quand même fait pas mal de prison. Et puis, pas mal d'isolement. Et en fait, justement, de quoi il a été accusé. Et puis, ce qui est les raisons qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait, quoi.
Tu sais, Philippe, c'est un type qui, en 86... est tombé pour un braquage et qui a pris 8 ans. C'est un braquage à Marseille, il a pris 8 ans et il s'est évadé une fois lors de ses 8 ans et si tu veux, il a été rattrapé, il a pris des années et si tu veux, il n'a pas eu de levée d'écrou jusqu'en 2010.
Ah oui.
Sauf en 94, on s'évade encore une fois, donc on arrive à s'arracher. Derrière ça, il nous colle 30 piges suite à une cavale assez bouillante, on va dire. On sort, on se retrouve des condés derrière, on essaye de survivre. Et puis, on attaque des agences bancaires pour alimenter la cavale. Et tout ça, à la finale, ils nous ont collé 30 ans. Et Philippe, il a mangé comme moi et... Et si tu veux, il est sorti en 2009, suite à cette peine.
Ouais.
Moi, j'étais encore à l'intérieur. Donc, je suis sorti en 2010. Et ils l'ont mis en situation, ils lui ont donné une conditionnelle de 10 ans. Mais compte tenu qu'il avait déjà fait 23 ans, Tu vois, c'est plus, c'est, tu vois, un perfect en moyenne, il fait 20 ou 21, 22, ce qui est énorme. Ouais. Hein, ouais. Tu vois, tu vois, dans d'autres pays européens, ça n'existe pas.
Ouais.
Donc, voilà, il avait déjà fait 23 piges, il lui file une conditionnelle de 10 ans. Il sort.
Ce qui est énorme. Retrouve...
Hein. Ah, ouais, non, mais tu vois, il sort, il se retrouve placé dans une sorte de. Un patron qui l'embauche. Tu vois, il y a un patron qui l'embauche, mais il le paye 400 euros par mois.
Ouais.
Et si tu veux, ce genre de patron, ce sont des mecs qui touchent des subventions parce qu'ils récupèrent des prisonniers. D'accord ?
Ah oui.
Donc, ils touchent un maximum d'oseille pour récupérer ces prisonniers, mais sauf qu'ils le payent à 400 euros par mois et son truc, c'était de les mettre dans une cave. Tu vois, ça fait que le mec, Philippe, il se retrouve dehors. Lui, bon, bah, évidemment, il est content d'être libéré, mais il se retrouve à travailler comme un chien. Et en plus de ça, il le met dans une pièce où il n'y a même pas de fenêtre. T'imagines ?
Ouais, bah, surtout quand tu as fait une dizaine d'années d'isolement, j'imagine que...
Alors, il a fait 11 ans d'isolement, Philippe, tu comprends ? Donc, en plus de ça, la justice, dans sa clémence, lui file la trique. Ça fait qu'il est bloqué dans un village autour de Toulouse. Et il ne peut pas en sortir. Il ne peut pas voir sa famille, il ne peut pas voir sa fille, qu'il n'a pas vu depuis 9 ans.
Ah, mais même, d'accord.
Il a une interdiction de territoire.
Interdiction, la trique, quoi. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller dans les grandes villes, il ne peut aller nulle part, il ne peut rester que dans un village, il ne peut pas respirer. Ah, imagine le type qui vient de faire 23 piges de placard.
Ah, c'est la prison à ciel ouvert. Quoi.
On lui donne 400 euros par mois, et puis on décide de le laisser comme ça, tu vois, sans soutien, sans rien, sans soutien psychologique, sans suivi, sans rien. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de tenir. Moi, j'avais au téléphone quand j'étais en centrale, moi, tu vois. Donc, et il me disait, tu peux pas savoir, c'est super dur ce qu'ils sont en train de me faire. J'arrive plus à supporter. Qu'est-ce que je fais ? Je lui dis, tu serres les dents. Tu serres les dents, t'es en liberté, mon pote, profite. Tu viens de faire des années. Même si c'est dur, faut bouffer ton pain noir, faut tenir. Parce que si jamais tu bouges une oreille, ils vont t'allumer. Donc... J'essaie de lui expliquer qu'il faut tenir et que même si c'est dur, peut-être les choses vont s'arranger. À la finale, il écrit à sa juge d'application des peines juste pour aller voir sa fille. Tu vois ? Pour aller voir sa fille, il essaie d'expliquer sa situation par rapport à ce patron, cette espèce d'ordure qu'il exploite. Et puis, il écrit à sa CIP, tu vois, en leur expliquant la situation, qu'elle est intenable. Et il tient comme ça pendant 6 mois. Enfin, 5 mois, exactement. Il essaye. Et crois-moi, il crève de faim, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Il crève la dalle, quoi. Et il reste bloqué dans ce village. Et il n'en peut plus. Il est en complète dépression. Et il va craquer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il prévient sa juge d'application des peines. Sa juge d'application des peines décide... De faire en sorte qu'il puisse respirer, qu'il puisse aller voir sa famille à Marseille, à Lyon, et pour pas qu'il pète un plomb, quoi. Mais au manque de peau, cette juge d'application, elle tombe malade. Tu vois ? Elle tombe malade, et il se retrouve sans juge d'application des peines, totalement sans réponse et sans rien à ses demandes. Sa CIP s'en bat les couilles de son histoire. Et tout le monde l'oublie, il le laisse comme ça dans sa situation, en train de d'en chier comme un... Voilà, quoi, il n'en peut plus. Et à un moment donné, ben voilà, il est en pleine dépression, il pète un plomb. Il dit, mais comment je fais ? Je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Il trouve un mec, voilà, il rencontre un pote, à lui, voilà, qui est dans un état, tu vois, dépressif aussi. Et ce mec-là, il a un petit calibre qui fonctionne même pas, tu vois ? Yeah, 100 balles, sans rien. Et puis, Philippe, voilà, il craque. À un moment donné, il se dit, moi, je peux pas crever de faim comme ça. Et il va sur un braquage, voilà. Il va à une poste, tu vois, il va dans une poste, et puis il tape son affaire. Bon, bref, il en fait 3 ou 4 comme ça. Bon, bref, c'est des trucs alimentaires, vraiment, tu vois. Tu vois, les gens vont dire oui, c'est des braquages, machin, mais c'est pas du tout ça. Le mec, il n'en peut plus, quoi.
Non, mais les gens, ils savent pas, la plupart savent pas ce que c'est qu'avoir fait 23 ans de. Enfin, d'ailleurs, visiblement, au jugement, c'est ce qui s'est produit. Son parcours, c'est 23 ans de prison et c'est 11 ans d'isolement. C'est comme si c'était rien passé, quoi. On n'en fait pas.
Ouais,
on n'en tient pas compte une seule seconde.
Ce que je veux dire, c'est que On ne comprend pas sa situation sociale. Ça veut dire qu'il est complètement, complètement abandonné de tout le monde. Et en plus de ça, on lui demande de fermer sa gueule et de rester dans sa cave et de se mettre à genoux, quoi.
Ouais, c'est ça, la réinsertion. C'est la réinsertion, ils appellent ça. Ouais.
Et du coup, au même titre que le pote avec qui il fait le braquage, qui lui aussi une histoire particulière.
J'ai pas entendu.
Oui, du coup, au même titre, on s'en fout de son histoire, au même titre que son pote avec qui il fait le braquage et qui a une histoire particulière, il me semble.
Ouais, parce que ouais, le type avec qui il fait sa braquage, un mec qui bossait à AZF, tu vois, à l'époque où il y a eu l'explosion à Toulouse.
D'accord.
Et ouais. Le type, il avait touché 200 000 euros pour en dédommagement, et il a tout cramé, il a tout brûlé, il s'est retrouvé lui aussi dans une histoire de... Tu vois, le type qui n'a jamais fait de braquage de sa vie, quoi. Tu vois, c'est vraiment... tu vois, et puis bon, ce type qui a été rentré dans le vif du jeu, en fin de compte, et puis qui avait besoin d'alimenter son truc, s'est associé avec Philippe, et ils sont montés, ils ont fait des trucs juste pour bouffer, quoi.
Ouais.
Et vraiment, si tu veux, moi, quand je suis allé au procès, déjà, moi, ça m'a fait bizarre de le voir au procès, puisque j'étais... porter témoin en fin de compte pour expliquer.
Il avait fait combien d'années au juré. Il avait fait combien d'années de préventive
Il a fait 3 ans de préventive, ouais. Tu vois, la moyenne nationale. Bon bref, tu vois, et moi je voulais être présent pour expliquer le parcours de Philippe et pourquoi il était arrivé à monter sur des braquages qui sont des braquages de merde. Parce que attends, tu si c'est maintenant un mec qui va braquer une poste, c'est un fou. Tu vois. Parce que à la finale il y a pas d'oseille, hein, et puis mais c'était pour démontrer que c'était vraiment un truc de désespoir, tu vois, le désespoir suite à la prison, un suicide social en fin de compte, tu vois. Il y en a qui se suicident parce qu'ils ont fait trop longues années, ils peuvent plus supporter l'extérieur, ils s'en mettent une. Et ben lui, Philippe, ben il en pouvait plus et il a été abandonné, quoi, tu vois. Et au bout de 7 mois, bon il s'est fait péter avec son associé et on se retrouve au procès.
Ouais.
Et à ce procès, nous, on vient avec quelques amis, on essaye de, tu vois, de lui apporter du soutien, parce que si on n'était pas venu, il n'y a personne qui entend parler de cette histoire,
Tu
vois. Et puis, et c'est une exécution administrative, ça veut dire que les peines qu'ils mettent, c'est des exécutions administratives, ça veut dire que, je vais t'expliquer la suite.
Ouais.
Il y a 3 jours de procès, déjà, les psys, ils arrivent, les experts-psys, ils le démontrent.
Ouais, justement,
c'est un individu. Ils n'essayent pas de comprendre sa psychologie. Ils se basent sur son passé. Au moment, à partir de là, tout est faussé. Parce qu'ils vont regarder son passé, avec le passé qu'il a, c'est même pas la peine, il ne peut pas répondre.
Ouais.
Donc, ils essayent de montrer que c'est un individu irrécupérable. Mais c'est un truc de fou, quand même, de dire qu'il est irrécupérable alors que personne ne l'a aidé. S'il y avait un soutien, ne serait-ce qu'un suivi digne de ce nom, il ne serait jamais tombé dans des trucs. Si on l'avait laissé aller voir sa famille, si on l'avait laissé voir son enfant, parce que ce qu'il faut signaler, c'est qu'il commence ses braquages le jour où il devait voir son enfant, et son enfant n'est pas venu. Parce que sa mère n'a pas voulu, et puis que la justice n'a pas respecté le fait de son droit de visite, enfin de son droit, son autorité parentale. Donc lui... Suite à ça, il ne voit pas son enfant. Il pète un plomb.
Ouais.
Tu comprends? Et donc, c'est ça qu'il fallait expliquer. C'est dire, ok, c'est vrai, il a braqué, il va être puni. D'accord. C'est comme ça, c'est la loi. Hein, tu ne peux pas y échapper. Malheureusement, on pourra en discuter. Hein. Vis-à-vis de ces gens, vis-à-vis de la justice, il a commis un délit, il a commis un crime de braquage, il va être condamné. Maintenant, il faut condamner en proportion. Et on voit cette espèce de président complètement partial. Mais vraiment, c'était une partie civile, ce mec. Qui n'arrêtait pas de les allumer. Et nous, on essayait d'expliquer cette situation et de dire ce que c'était qu'une longue peine, ce que c'était que le traumatisme de faire des années d'isolement, ce que c'était, ce que ça pouvait, l'impact que ça pouvait avoir sur quelqu'un qui va sortir et qu'on laisse totalement désœuvrer et totalement sans aide, sans aucun soutien, et à la finale, il se retrouve abandonné à lui, et puis, si tu veux, il craque, que veux-tu qu'il fasse? Il se retrouve dans une situation, il va continuer à crever la dalle. À un moment donné, ou le mec il se suicide, ou le mec, je sais pas, il devient fou, ou il réagit par rapport à une situation intenable.
Et comment et Laurent, comment les jurés réagissent par rapport à ça en fait?
Parce qu'on a... C'est malheureux, mais les jurés ils sortent de chez eux, on leur dit vous allez juger quelqu'un qui a braqué des braquages, enfin qui a braqué des banques ou qui a braqué des postes, mais pour eux c'est mesquine. Ils n'ont pas l'habitude, ces gens-là, ces truffes. Non, mais c'est des truffes, mais forcément, c'est des truffes. Quand tu dis ça, c'est des gens qui regardent Joséphine en gardien, tu vois. Donc, ils sont face à un type qui a un passé judiciaire long comme le bras, et ils peuvent pas avoir le recul nécessaire pour comprendre les raisons de ce passage à l'acte.
Oui, donc, puis aussi,
ils jugent sur des faits. Ils disent, voilà, ce type, il a fait des braquages, il a mis une cagoule. Alors moi, je leur explique, je dis, mais attendez, ce n'est pas du grand banditisme. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un braquage de merde de poste parce qu'il a faim. Est-ce que vous savez, je veux dire, parce que là, ils l'ont fait passer pour le braqueur professionnel.
Ouais, voilà, c'est ça. Avec aussi toutes les expertises psy qui revenaient depuis sa petite enfance, et, qui qu'en gros, c'était, il avait le braquage dans le sang parce que, étant enfant, nanana.
Et pour le démonter, c'était bien simple. Ouais,
quand dans les jurés, ils entendent ça pour une journée complète, et bah, au bout d'un moment, voilà, quoi. C'est dur de redresser la barre, quoi.
Pour monter sur des postes avec des postes. Et pour braquer ce genre de d'établissement, mais faut être totalement à la masse, quoi. C'est vraiment un acte de désespoir plus qu'autre chose. C'est comme s'il avait braqué des épiceries. Il y aurait eu une épicerie, il aurait braqué une épicerie. Parce que il avait faim.
Oui,
donc il faut décomposer l'acte en lui-même. Et eux, ils l'ont pas décomposé. Ils ont fait ça comme s'ils voyaient un film. Comme s'ils voyaient le plus grand truand de leur vie qu'ils n'ont jamais vu, mais en réalité. Et en plus de ça, quand on a un procureur, des parties civiles, des témoins, et des gens qui sont complètement, à la rigueur, en train de se demander qu'ils avaient peur pour leur vie. Parce qu'à un moment donné, on dit oui, mais ils sont venus armés. Il n'y avait pas de balles dans l'arme. Est-ce qu'on comprend qu'il n'y avait pas, il y avait même pas une balle dans l'arbre, elle ne marchait pas, ne fonctionnait pas. Et l'autre, il avait une matraque toute bidon. Voilà, quoi. Quand on voit ce genre d'individus au procès, on ne peut pas dire que ce sont des professionnels. Malgré ça, pour justifier les réquisitoires, pour justifier tout un système de répression, on les fait passer pour des individus dangereux, chose qui n'est pas vraie. Puisque même il serait passé quelque chose de grave, je veux dire, il aurait fallu qu'il sorte une arme pour tirer, c'était même pas possible. Donc, il pouvait pas y avoir de violence, et il n'y a pas eu de violence en plus de ça sur les affaires. Bon, bref.
Et du coup, combien ils prennent alors pour ça?
Alors, le problème, c'est qu'on attend le réquisitoire. Moi, dès le départ, j'ai senti que c'était mort. Moi, je peux te dire, j'ai l'habitude, je suis passé 6 fois avec Philippe, aux assises, donc j'ai vu l'ambiance, j'ai dit là il va morfler. Réquisitoire.
Toi tu disais la veille, j'ai vu sur ton blog, tu disais que tu pronostiquais 10-15 ans, déjà t'étais pessimiste, et au final...
Déjà, j'étais pessimiste. Réquisitoire, il demande 20 ans de réclusion criminelle. Alors, il demande 20 ans de réclusion criminelle, l'avocat fait sa plaidoirie, les particuliers font leur plaidoirie, l'avocat fait une bonne plaidoirie, et d'ailleurs à la fin il dit, j'aurais jamais cru qu'en venant dans cette cour d'assises, je plaiderais contre la peine de mort. Parce que c'est une peine de mort. Parce que Philippe aussi, il est atteint d'une maladie et qui lui donne une espérance de vie très courte. Bon, bref. Ça fait que les tenants, les aboutissants, on les a donnés aux jurés. On leur a dit, voilà, si vous le condamnez à une peine de fou, vous allez le tuer, vous allez l'exécuter. Ça sera une peine de mort. Ça ne sera pas une peine de prison, ça sera une peine de mort. Eh bien, malgré ça, à la fin du délibéré, ils sont revenus et ils lui ont collé 20 ans. 20 ans de réclusion criminelle. Voilà.
Pour quelques dizaines
de 20 ans, en faisant croire aux jurés qu'avec toutes les remises de peine, etc., etc., il sortira bien
ah oui,
avant.
Oui, mais ça, on l'a démonté aussi.
Et
on
pourtant, les jurés...
Ils l'ont fait en toute confiance. Ouais, parce que nous, on leur a expliqué qu'il avait 10 ans de conditionnel. C'est-à-dire qu'il devait d'abord terminer ses 10 ans de conditionnel et après entamer les 20 ans de réclusion criminelle.
Avec une période de sûreté en plus. Ouais, 15 ans de sûreté.
Puisqu'il est en récidive légale. Récidive légale égale 15 ans de sûreté. Donc 25 ans plein.
Ouais.
Autant dire qu'ils sont, ils l'ont tué.
Donc du coup, effectivement, c'est bien une peine de mort, quoi.
Ah mais c'est une, mais bien sûr, c'est une peine
enfin,
de mort.
Enfin, comme toute peine de prison, mais là encore un peu plus,
donné,
quoi.
Donné de façon totalement illégale, quoi. Je veux dire, de totalement folle. C'est, on se permettre de mettre 20 ans de réclusion criminelle plus 10, plus 15 de sûreté, c'est exécuter un mec en public. Sauf qu'évidemment, dans le délibéré, quand il se passe le délibéré, le président, évidemment, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, mais vous inquiétez pas, il y a la suspension de peine, vous inquiétez pas, il y a la conditionnelle, vous inquiétez pas, et puis voilà. Et les jurés, qu'est-ce qu'ils font ?
Bah, ils panent rien, de toute façon.
Ils comprennent rien, ils détruisent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils appliquent la loi. Et d'ailleurs, le complice, qui est, dont le réquisitoire, c'était 7 ans pour lui, il prend 8.
Ouais,
il prend 8. Je veux dire, il n'avait même pas une arme dans les mains. C'était un mec qui n'a jamais rien fait de sa vie. C'était un travailleur. Il a travaillé toute sa vie, ce mec. Il prend 8 ans dans la tête. Donc, tu vois, les assises, c'est la roulette russe. C'est de l'auto. C'est-à-dire que tu passes à Toulouse, tu passes... Là, il a fait appel, bien sûr, Philippe. Mais, tu veux, on est face à un truc de fou, quoi. Et j'espère que personne ne passera devant des cours d'assises comme ça, parce que le jour où vous passez, je sais pas, tu bois un coup, je sais pas, quelqu'un boit un coup, ou il roule en voiture, il tue quelqu'un, et qu'il se prend 15 ans dans la tête. Et ça va vite maintenant. Parce que là, évidemment, on condamne soi-disant un gangster. Mais c'est pas ça. Si on laisse faire ce genre de choses à Philippe, eh bien, ils l'appliqueront à tout le monde. Et c'est ça le problème. Ça veut dire qu'ils se permettent de faire ça à des êtres humains. Ça veut dire qu'ils se permettent tout ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'ils peuvent tuer des gens de façon totalement légale, de façon dissimulée, la peine de mort dissimulée, comme on dit, administrative, et personne ne dit rien. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que nous, on était présents et qu'on va faire le nécessaire. Parce que comme il a fait appel, on sera là, mais cette fois, ça va chier, quoi. Tu vois ? On ne laissera pas faire.
Bah, justement.
Parce qu'on ne peut pas laisser ce genre de choses. Et aujourd'hui, en centrale, il y a des centaines de détenus qui sont condamnés de cette manière. Parce qu'ils n'ont pas d'avocat, parce qu'ils n'ont pas d'oseille, parce que ce sont des pauvres, parce que... etc. Et ça, bah, c'est pas normal.
Ouais, excuse-moi Laurent, bah, on n'a plus le temps, là, c'est la fin de l'émission. Donc en tout cas, merci à toi, et puis on se tient au courant pour l'appel, et puis
on refera la suite, on parlera stratégie, tout ça un peu, on approfondira les assises, vas-y
chose.
Vite, parce qu'il y a du monde après nous.
Après ce jugement, ils l'ont placé directement en quartier d'isolement.
Ouais.
Et pour ça, des raisons farfelues.
Voilà. Pour ajouter
ouais, ça bien enfoncé
à la torture, ils l'ont placé directement en isolement. Donc...
Et l'isolement, on en a parlé tout à l'heure en plus avec une lettre de Laurent Orsini où il montre bien ce que c'est d'être à l'isolement et c'est hyper grave, hyper dur quoi.
Ouais.
Voilà. Comment tuer quelqu'un et l'éliminer quoi. Enfin...
Comme je le dis toujours, c'est beau une prison qui brûle.
Bon bah sur ce mot, merci en tout cas.
Bah, merci beaucoup et puis on se tient au courant. Et puis,
Tient au courant, de toute façon vous serez au courant par le réseau des radios.
Et puis si vous voulez voir, vous pouvez vous taper Laurent Jacquat pour ceux qui sont intéressés, vous tombez sur ton blog et puis
vous tapez vu sur la prison et vous tomberez sur le déroulé du procès et puis plein de choses.
Ok. Bon, bah merci à toi et puis on te laisse hein, parce qu'on a vraiment plus le temps, on est à la bourre. Allez, ciao.
Merci, bonne soirée, ciao.
Et vive la liberté.
Ouais.
Bon, bah alors, on va vite clore l'émission. Donc, c'était l'émission Papillon. On vous rappelle notre adresse si vous voulez nous contacter. C'est émission Papillon chez CSA, 16 rue du Mont, 42100 Saint-Étienne. Ou émission Papillon tout attaché sans accent @riseup.net. Voilà, vous pouvez nous retrouver jeudi dans 15 jours, enfin le premier jeudi du mois de 20h à 21h. Voilà.
Salut à tous et toutes.
Ciao et courage à l'intérieur.
Ouais, bon courage, salut.